Nous allons ensemble ouvrir l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 4, verset 27. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme « « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Alléluia. Merci Seigneur pour ce passage extraordinaire. Au travers de cette rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine, il y a là pour nous aujourd'hui un précieux enseignement et un encouragement à nous lever pour servir le Seigneur, car nous le voyons, si nous levons les yeux, les champs blanchissent déjà. Les champs blanchissent déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. On voit ce qu'a produit, j'allais dire, la conversion de cette femme samaritaine. Avec cette femme est venue toute une foule de personnes, plusieurs crurent en lui, et puis après il nous a même dit qu'encore un plus grand nombre crurent à sa parole. Ils sont venus, ils ont écouté ce que Jésus a pu dire, et nous avons là, les prémices d'une grande moisson d'âmes que le Seigneur va opérer non seulement en Samarie, mais jusqu'à nos jours et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais avec vous, m'arrêter sur une expression que Jésus va dire, non pas à cette femme, mais à ses disciples, à ses apôtres. Il va leur dire, levez les yeux. Levez les yeux, car regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Jésus les invite à lever les yeux. Ça fait déjà un certain temps que les disciples sont avec Jésus. Ce n'est pas la fin du ministère de Jésus, c'est encore le début, mais ça fait déjà quelque temps qu'ils le suivent. Et là, il y a quelque chose de tout à fait étonnant qui vient de se produire. Et Jésus va saisir, cette opportunité pour interpeller les disciples afin qu'ils lèvent les yeux et qu'ils regardent les champs qui blanchissent pour la moisson. Tant que nous ne levons pas les yeux, nous ne pouvons pas voir ce que le Seigneur voit. Tant que nous avons la tête baissée, regardant nos pieds, regardant, juste le cercle qui est autour de nous, Nous ne pouvons pas voir de loin, nous ne pouvons pas voir l'horizon, nous ne pouvons pas voir ce que le Seigneur aimerait que nous puissions voir. Jusqu'ici, les apôtres, les disciples qui suivent le Seigneur se sont focalisés sur certaines choses et la preuve en est, c'est qu'ils sont en Samarie. Jésus va parler à une Samaritaine et va s'en suivre une série de conversions nombreuses dans cette région de la Samarie. Et les disciples, quand ils arrivent, ils sont étonnés de ce que Jésus parle à une femme. Ils sont étonnés de ce que Jésus parle à une femme. Quoi ? Voilà quelque chose d'étonnant. En plus, c'est une Samaritaine. Jamais, les disciples auraient pensé que la bonne nouvelle de l'Évangile aurait été pour les Samaritains. Ils étaient trop focalisés sur leur nation, trop focalisés sur leur cercle proche de connaissances, sur les gens qui avaient la même histoire qu'eux, les gens qui avaient la même culture qu'eux, les gens qui faisaient partie de la même race qu'eux. Ils étaient donc trop omnubilés par cela et ils ne pouvaient voir. Et quand on regarde un petit peu après l'histoire de l'Église, les débuts de l'histoire de l'Église, mais même encore aujourd'hui, eh bien, on voit que dans les Actes des apôtres, ça a été difficile pour eux de lever les yeux et de voir autre chose que ce qu'ils voyaient, de voir les champs qui blanchissent ailleurs que dans leur précaré, ailleurs que dans leur propre petit champ. Là, ils n'ont pas vu à ce moment-là ce que le Seigneur leur montrait de voir, que le salut était pour toutes les nations, sans aucune distinction de race, sans aucune distinction de rang social, sans aucune distinction de sexe, homme, femme. Le salut, il est pour tous. Que Dieu soit béni. Levons les yeux. Nous ne pouvons véritablement servir le Seigneur comme il voudrait que l'on le serve tant que nous ne levons pas les yeux. Et bien sûr, nous avons bien compris que les yeux ici dont il est question sont les yeux de notre cœur. Le Seigneur veut nous amener à voir plus loin, à voir loin avec lui, à voir comme lui il voit. Et tant que nos têtes sont baissées, que nous ne voyons pas, que nous ne levons pas les yeux, nous ne pouvons pas entrer pleinement dans cette moisson. Levons nos yeux. Pourquoi avons-nous du mal à lever les yeux? Pourquoi sommes-nous souvent tête baissée? Alors, j'ai pris quelques exemples de la parole de Dieu où l'on va voir quelques personnages qui ont eu du mal à lever les yeux. Première personne est une femme. Une femme courbée que nous voyons dans les évangiles, dans Luc chapitre 13, verset 10. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains, à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Voilà une femme qui a une infirmité. L'origine de cette infirmité est spirituelle puisqu'il nous est dit qu'elle est possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et cette femme, depuis 18 ans, pas rien quand même, était courbée. Elle marchait comme ça dans sa journée, elle ne pouvait pas voir l'horizon, elle ne pouvait pas redresser la tête et voir de loin. Ce qu'elle voyait, c'était juste là, le cercle proche autour d'elle, elle ne pouvait pas se redresser. Cette femme était probablement croyante, cette femme, on le voit, elle était dans la synagogue, en tout cas, cette femme avait un certain intérêt pour Dieu. Cette femme, donc voilà, elle était là et elle était dans la synagogue, mais cette, cette croyance qu'elle avait, cette foi qu'elle avait, ne pouvait pas, à ce moment-là, la délivrer, et elle restait courbée. Il a fallu l'intervention du Seigneur Jésus pour qu'elle puisse enfin se redresser et glorifier Dieu. Ses yeux maintenant sont tournés vers le ciel, elle glorifie le Seigneur. Alléluia, elle glorifie le Seigneur. Sans parler de cas extrêmes comme celui-ci, car nous le voyons bien, cette femme, si elle était courbée, c'est à cause de cette possession d'un mauvais esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et il est vrai que les mauvais esprits agissent non seulement dans l'âme, non seulement dans le corps, mais on le voit ici, ils ont une influence, ils ont aussi une action sur les corps, non seulement sur cette femme, mais on pourrait trouver d'autres texte où l'on voit par exemple un mauvais esprit qui rend muet quelqu'un, il ne peut pas s'exprimer, sa bouche ne peut pas parler, il ne peut pas ouvrir. Donc on voit ici que les mauvais esprits peuvent causer une infirmité. Mais je n'aimerais pas parler de cela ce matin, j'aimerais rester concentré sur notre sujet sans parler d'un cas extrême. Il y a parfois des fardeaux sur nos épaules qui nous courbent. Il y a des choses qui nous pèsent, qui nous empêchent de lever les yeux, qui nous empêchent de nous redresser. Et au sens figuré, bien sûr, nous sommes courbés et tellement nous avons de fardeaux, tellement nous sommes accablés que nous n'arrivons plus à nous redresser et à voir l'œuvre de Dieu telle que lui, il voudrait qu'on la voie, à lever nos yeux déjà vers le Seigneur et puis vers ces champs qui blanchissent déjà. Tant qu'on est accablé ainsi, on ne peut pas entrer pleinement dans le service de Dieu. On ne peut pas entrer pleinement dans ce que le Seigneur voudrait que l'on fasse pour les autres, parce que nous sommes trop accablés en nous-mêmes et, j'allais dire, toute notre énergie se focalise sur nous-mêmes pour essayer de se redresser, essayer de porter du mieux qu'on peut ces fardeaux. Et nous sommes tellement accaparés par nous-mêmes à ce moment-là que effectivement nous ne pouvons pas nous redresser et lever nos têtes. Il y a cet appel du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est celui qui prend notre fardeau, ne l'oublions pas. Il est celui qui nous appelle et qui nous interpelle à déposer nos fardeaux à ses pieds. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur. Peut-être changer de micro, non ? Non, ça va ? Bon. Voilà, donc nous voulons considérer que le Seigneur est celui qui redresse ceux qui sont courbés. Nous lisons dans le psaume 145. Psaume 145, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, tu leur donnes la nourriture en son temps. Amen. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi. Merci Seigneur. Nos yeux sont tournés vers le Seigneur. Il est celui qui nous redresse. Nous-mêmes ne le pouvons pas. Nous ne pouvons pas, nous redresser nous-mêmes à cause de ces fardeaux. Mais le Seigneur est celui qui enlève nos fardeaux afin que nous puissions nous redresser, lever nos têtes. Je pense que peut-être vous avez déjà eu un torticolis, en tout cas ça peut arriver, d'avoir les muscles de la nuque vraiment endoloris, qui sont durs comme ça, et on a du mal, les épaules sont coincées, et puis quand ça nous arrive, quand on a fait un faux mouvement ou qu'on a porté peut-être des choses trop lourdes, eh bien on est là, on est coincé, on a même du mal à tourner la tête, on a du mal à lever les yeux comme cela. il faut vraiment une guérison, il faut un massage, il faut peut-être quelques médicaments pour pouvoir faire partir ce torticolis. En tout cas, il y a un torticolis bien plus grave, c'est celui de l'âme. Tant que nous sommes accablés par ces fardeaux-là, nous ne pouvons pas, j'allais dire, nous redresser nous-mêmes. Il nous faut autre chose, il nous faut une action du Seigneur. Il nous faut vraiment nous accrocher aux promesses du Seigneur. Il est dit, les yeux de tous espèrent en toi. Quand quelqu'un espère en Dieu, il n'a pas les yeux tournés sur cette terre. Notre espérance, elle n'est pas sur cette terre. Notre espérance, elle est dans les cieux. Lorsque Jésus nous a dit et qu'il nous a montré tous les signes avant-coureurs de la fin du monde, signes qui aujourd'hui s'accomplissent les uns après les autres, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il ne nous a pas dit de nous lamenter, de non. Redressez-vous, levez vos têtes, votre délivrance approche. Bien-aimés, nous sommes dans des temps tout à fait extraordinaires. Je bénis le Seigneur d'être dans cette génération. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus revient bientôt. Nous ne savons pas, bien sûr, et je ne vais pas m'aventurer à donner une date. Ça appartient au Seigneur. C'est lui seul qui connaît l'heure, le jour et l'heure. C'est lui seul. Mais nous le voyons, les prophéties s'accomplissent. La grande moisson arrive. La grande moisson arrive. Alléluia. Le Seigneur est celui qui est à la porte. Et quand nous voyons ces choses, Jésus a dit, mais redressez-vous, levez vos têtes, votre délivrance approche plus que jamais. Il est temps, il est plus que temps de passer à l'action. Il disait, mais il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Alors les moissons sont plus précoces dans ces pays-là que dans notre latitude, puisque on est plus au sud, il fait un peu plus chaud, donc la moisson est un peu plus précoce. Mais à partir du moment où ils avaient ensemencé tout cela, ils disaient, mais on a encore 4 mois, on a le temps. Il y a 2000 ans, Jésus a dit déjà, que les champs blanchissent. Alors, 2000 ans après, hein, 2000 ans après, plus que temps de passer à l'action, de voir, de nous redresser, notre espérance glorieuse d'être avec le Seigneur approche et nous voulons nous redresser, que Dieu soit béni. On va rester dans l'Évangile selon Luc et après avoir parlé de la femme courbée, j'aimerais parler d'un autre homme. Dans Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Nous sommes ici en présence d'une parabole de Jésus décriant une scène tout à fait commune qui se situe dans le temple qu'il y avait à Jérusalem, mais ça pourrait aussi se passer dans une église. Ça pourrait se passer dans une église que quelqu'un, comme ce pharisien, est autosatisfait de lui-même, et dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans une fausse assurance aussi. Et puis, à côté, avoir quelqu'un qui est en train de se lamenter, ce public-là, j'aimerais m'arrêter sur ce public-là. On voit l'attitude humble de cet homme. Il se tient à distance et il nous est dit, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Cet homme est un homme qui reconnaît son péché. Cet homme est un homme qui a la crainte de Dieu. Cet homme est un homme qui est dans l'humilité. Il sait ce qu'il est. Et cet homme a une crainte de Dieu. Et il demande au Seigneur d'être apaisé envers lui parce qu'il reconnaît son état de péché. Cet homme n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Cet homme sait que Dieu est saint. Et que lui, il est pécheur. Cet homme sait que Dieu est juge. C'est un juge. Il le sait. C'est pour ça qu'il réclame, demande au Seigneur d'être apaisé. Mais cet homme ne connaît pas encore, et c'est pour ça qu'il n'ose pas lever les yeux au ciel, que Dieu est amour. Il est dans la crainte. Il est dans la crainte. Il est dans la crainte de ce Dieu saint. Il est dans la crainte de ce Dieu qui est un juge. Or, il est vrai que Dieu est saint et il est vrai que Dieu est juge. Mais cet homme est dans la crainte uniquement. Il ne pourra connaître ce Dieu d'amour que quand il aura été pardonné. Et il va l'être. Jésus lui dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Il va connaître le pardon de Dieu. Et une fois qu'il connaît le pardon de Dieu, il va savoir que Dieu est amour. Qu'est-ce que je veux dire par tout cela? Où est-ce que je veux en venir par rapport à notre message de ce matin? Il est juste. Il est normal. Il est indispensable. Il est plus que nécessaire. Et on pourrait rajouter encore bien des choses, d'être dans l'humilité devant Dieu. Il est normal, il est juste, indispensable de se lamenter devant Dieu, de lui demander pardon, sois apaisé envers moi. C'est indispensable. Mais nous ne pouvons pas tout le temps être dans cette posture-là. Dieu est amour. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que nous ne pouvons pas toujours être centrés sur nous-mêmes, accaparés par nos propres fautes. Une fois que Dieu nous a pardonnés, il nous a pardonnés. Alléluia. Une fois qu'il nous a lavés, purifiés de nos péchés, il nous a purifiés, on ne va pas continuer sans cesse à se lamenter pour des choses qui ont déjà été expiées à la croix, pour des choses qui ont déjà été pardonnées. Si il y a autre chose que ma conscience me reproche, alors je me place devant le Seigneur et je lui demande pardon. Mes frères et sœurs, levons nos yeux, car Dieu est amour. La crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Levons nos yeux. Osons lever les yeux vers le Seigneur. Osons le connaître, lui, le Dieu d'amour. Et lorsque nous levons nos yeux vers le Seigneur, vers ce Dieu d'amour, alors la vision que nous avons, non seulement de nous-mêmes, que nous avons de Dieu et que nous avons du monde, change. Car Dieu a tant aimé le monde. Connaissez la suite. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Or, les disciples de Jésus, pour revenir à notre trace d'introduction, eux, ils étaient focalisés sur la Judée, sur la Galilée, là où habitaient les Juifs, là où ils étaient. Ils étaient focalisés sur leur nation, et sur leur pays, sur leur race, mais ils ne pouvaient pas voir les autres nations, les autres champs qui blanchissaient déjà, surtout pas les Samaritains. Bah alors non, les Samaritains. Parce qu'il y avait une hostilité, il y avait une haine, il y avait une mépris entre ces deux peuples-là, mais Jésus les amène à voir autre chose. Car il est amour. Dieu a tant aimé le monde. Nous voulons lever les yeux vers ce Dieu qui est amour pour voir la splendeur de l'évangile de Christ, pour considérer à quel point il nous aime, nous qui sommes pécheurs. Oui, nous avons raison de nous lamenter parce que nous sommes pécheurs, nous sommes indignes de son amour. Mais quand on a compris qu'il nous aime malgré notre indignité, alors cela nous aide à aimer les autres aussi, et à les voir tels que Dieu les voit. Parce que ce pharisien, lui, il était dans le mépris. Il était dans une fausse assurance. Il se justifiait lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a justifié. Il se justifiait lui-même. Il ne pouvait pas voir les autres comme Dieu les voyait. On le voit avec le mépris qu'il avait vis-à-vis de ce publicain. Lui aussi ne connaissait pas le Dieu d'amour. Et ne pouvait pas voir les champs qui blanchissent déjà. Nous voulons, eh bien, connaître ce Dieu d'amour. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Psaume 121, vous connaissez par cœur probablement. Il y a des obstacles. On est dans une région qui connaît la montagne, on a les Pyrénées pas loin, la montagne noire à côté, on est entouré de montagnes. Et c'est vrai que les montagnes constituent un obstacle pour voir l'horizon. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je ne peux pas le voir. Les montagnes me cachent l'horizon. Le secours me vient de l'Éternel. Et juste après, il y a le psaume 123, il est écrit, non pas je lève mes yeux vers les montagnes, mais vers le Seigneur. Alléluia. Vers le Seigneur. Nous voulons lever les yeux vers le Seigneur, voir plus haut que les montagnes, voir plus haut que nos obstacles, afin de pouvoir voir l'œuvre de Dieu. L'incrédulité nous empêche de voir. L'incrédulité nous empêche de lever les yeux comme le Seigneur voudrait que l'on lève les yeux. Pour Abraham, il a levé les yeux parce que Dieu lui a demandé de lever les yeux. Il lui a dit dans Genèse chapitre 13, « Lève les yeux au nord, au midi, au sud, à l'ouest. Lève les yeux. Tout le pays que tu vois autour de toi, je te le donnerai. » Alors Abraham a levé les yeux, il s'est tourné, il a fait le tour de lui-même. Il a vu tout ce territoire, il a vu de loin parce qu'il était en hauteur. Il a vu toutes ces plaines, toutes ces montagnes, il a vu toutes ces campagnes, il a vu tout cela. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. Nous voulons lever les yeux avec les yeux de la foi. Abraham était un homme de foi. Abraham était un homme qui marchait par la foi, qui a vécu par la foi. Nous voulons voir ce que Dieu veut que l'on voie. Est-ce que nous voyons les champs qui blanchissent déjà? Est-ce que nous pensons que les âmes sont prêtes, elles sont mûres, pour être cueillies et amenées dans la présence de Dieu? Est-ce que nous voyons ces âmes? Peut-être nous, on dirait, mais ce n'est pas possible qu'il se convertisse celui-là. Mais si. Alléluia. Dieu est grand pour toucher les cœurs. Que Dieu soit béni. Nous ne voulons pas être comme ces 10 espions qui sont allés explorer le pays de Canaan et qui sont revenus. Ils ont vu les mêmes choses que les autres, que Josué et Caleb. Les mêmes choses. Ah, ils ont vu les géants, les fils d'Anak. Là. Ils les ont vus. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ils ont exagéré un petit peu quand même. Hein. Parce que Dieu est plus grand que ces géants-là. Ils n'ont pas regardé comme Dieu voit. Et Caleb et Josué, eux, ont vu comme Dieu voit. Ils ont été dans la foi. Alors, levons les yeux. Lorsque nous levons les yeux, nous voyons ces champs qui blanchissent. Nous voyons plus loin que nos propres limites. Nous voyons au loin ce que peut-être notre corps ne peut pas atteindre. Nous voyons l'horizon, mais on y va. On va vers là. Lorsque nous voyons ces champs qui blanchissent, lorsque nous voyons que aucune âme n'échappe à l'amour de Dieu, eh bien, nous passons à l'action. L'amour de Dieu nous presse, alors à ce moment-là. Nous passons à l'action. Prions donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson, elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Est-ce qu'ils voient les champs qui blanchissent déjà? Est-ce qu'ils les ont remarqués? Il y a encore tant à faire partout dans le monde. Tant à faire même ici, en France, tant à faire dans nos grandes villes, dans les campagnes, dans les quartiers, dans les banlieues. Il y a tant à faire. Est-ce que nous le voyons? Nous voulons répandre en tout lieu cet évangile merveilleux, la splendeur de l'évangile de Christ. Alléluia. C'est Dieu qui fera le reste. Nous sommes appelés à semer, à arroser. C'est Dieu qui fait croître. Ça lui appartient. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais nous voyons, parce que parfois on dit pour une âme. Vous avez vu ce qu'une âme a fait? Une conversion en a produit beaucoup. Voilà. Une conversion. On le voit. Dans d'autres passages, on voit qu'une conversion a produit beaucoup d'autres conversions. Donc, nous voulons considérer que Dieu voit autre chose que ce que nous pouvons voir. Et il tient toutes choses entre ses mains. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous voulons vraiment voir comme lui voit. Aide-nous, Seigneur, à lever les yeux de nos cœurs. Avoir toujours les yeux fixés sur toi, afin que nous puissions voir comme toi tu vois, que le Seigneur soit glorifié. On va ensemble bénir notre Sauveur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oui Seigneur, les champs blanchissent déjà, tu nous le dis, tu nous le rappelles. Et nous voulons lever les yeux, Seigneur. Pas être centrés sur nous-mêmes, accaparés sur nous-mêmes, recroquevillés sur nous-mêmes, sclérosés, Seigneur, sur nous-mêmes, mais nous voulons lever les yeux, Seigneur, et voir comme toi tu vois, Seigneur, comme Abraham a vu en son temps. Seigneur, nous voulons voir avec ses yeux d'amour, Seigneur, ses yeux pleins d'espérance, non seulement, Seigneur, par rapport à ton grand retour, mais plein d'espérance pour ses âmes, parce que tu es grand pour les toucher. Nous ne voulons pas mettre en doute que tu peux toucher leur cœur. Seigneur, merci de les convaincre de péché. Que ton nom soit glorifié. Aide-nous, Seigneur, donc à voir comme toi tu vois, Seigneur, et à passer à l'action, Seigneur. Car nous savons en quel temps nous sommes, Seigneur. Seigneur, la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, tandis qu'il est jour, Seigneur, nous voulons vraiment eh bien, nous mettre à l'œuvre, Seigneur. Avec cette ferveur de l'esprit que tu nous as donnée, que ton nom soit glorifié. À toi la gloire, l'honneur, la force et la puissance, Seigneur. Amen.